des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 15 septembre 2020. Vous savez, je commence toujours l'émission en vous lançant un gros ben voyons donc sur tel ou tel sujet, quelque chose qui m'interpelle, qui me fait grimper dans les rideaux. Ben aujourd'hui, ça va être très court. Il faut fermer les bars, les amis. Il faut fermer les bars. Lisez-vous les journaux, écoutez-vous la radio, est-ce que vous regardez la télé comme moi? Le nombre de cas d'éclosion partout au Québec qui sont liés à des bars. J'aurais pas assez de toute l'émission pour faire la liste des bars qui sont impliqués dans des éclosions, que ce soit 10, 20, 30, 40, 80 personnes. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour fermer les bars? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Puis quand je vois ça aller, je pousse un grand. Ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Bon, je sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, de mon côté, je suis complètement découragée. Découragée par cette manifestation de 10 000 personnes en fin de semaine anti-masque obligatoire, anti-mesures sanitaires. Bien sûr, on est en démocratie, les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent et manifester contre ce qu'ils veulent, mais c'est désolant de voir qu'autant de gens ne comprennent pas l'urgence d'agir. Et je pense que je suis pas la seule à être découragée. Je pense que mon invité du mardi, Denise Bombardier, est elle aussi un tantinet agacée par la situation actuelle? Denise, bonjour.
C'est un euphémisme de dire je suis agacée.
Oui, il faut que vous expliquiez.
D'abord,
oui.
Moi, je suis très choquée. Parce oui. Que ce que ça dit, c'est que, et vous parlez de la démocratie, c'est parce que la démocratie, il faut le répéter constamment, c'est quelque chose, parce qu'elle fait elle donne un espace de liberté à ceux qui veulent s'opposer au système dans lequel ils vivent, par définition, dans des situations de crise comme celle que l'on connaît actuellement et qui est certainement la crise la plus grave qu'a connue le Québec dans son histoire, d'une certaine façon, parce que le Québec n'est pas seul, le reste du monde aussi, mais c'est que ça ébranle et ça secoue la démocratie. Et quand on voit des gens descendre dans la rue, à hauteur de 10 000 personnes, Sophie, vous avez vu, j'ai dit, mais si ça avait été pour défendre le français, il y aurait eu quoi, 100 personnes dans les rues, alors qu'il y en a eu des mon Dieu, c'était quasiment avant votre naissance, Sophie, il y a eu jusqu'à 200 000 personnes qui sont descendues dans la rue au Québec pour défendre la langue française. C'est vous dire à quel point on est cette manifestation-là de gens qui revendiquent leurs droits. Ils disent que leur droit, leur liberté personnelle est atteinte, alors que quand on regarde froidement la situation, des gens qui refusent de porter le masque, dont les autorités sanitaires nous disent ici et ailleurs, n'est-ce pas, que c'est une façon, c'est pas la façon absolue, mais c'est une façon de se prémunir contre la pandémie, quand ils descendent dans la rue comme ça et qu'ils défient l'autorité, et qui nous disent, parce que c'est ça que ça, qu'ils nous disent, nous, on ne vous respecte pas parce que nous décidons que c'est notre liberté à nous, alors qu'ils nous contaminent par imaginez, après cette réunion-là, on les a vus, vous avez vu qu'ils s'embrassaient, ils s'enlaçaient.
Absolument, des câlins. Hein?
Donc, ça, on verra combien ça va provoquer de réactions, ça. Et on va voir s'il y a des éclosions là qui vont s'exprimer d'ici quelques jours, qu'on va vérifier avec des gens qui, parce qu'ils étaient dans la rue, ces gens-là retournent dans leur milieu de travail, n'est-ce pas, retournent partout, parce qu'ils viennent de partout. Eh bien, c'est un danger. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que ma question, j'ai dit, c'est fini l'hésitation. Moi, je trouvais que le premier ministre Legault, jusqu'à maintenant, avait été capable de de convaincre une très grande majorité de la population, n'est-ce pas, qui s'est mise au confinement, qui s'est déconfinée comme il faut, qui fait attention, qui se prive des grands-parents, là, je parle pour moi et pour tous les autres, des grands-parents qui se privent de voir leurs petits-enfants et leurs enfants à cause de ça, des jeunes qui refusent d'aller dans les bars parce qu'ils savent aussi que dans les bars, ça peut se produire aussi. Donc, ils respectent ça, qui ne veulent pas contaminer les autres, qui sont des bons citoyens. Mm. Eh bien, là, vous avez ces irréductibles dont on peut calculer à peu près à 10 % n'est-ce pas, leur présence au Québec, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Si, là, par exemple, si le premier ministre Legault avait appliqué lui-même les règlements qu'on doit respecter, il aurait fallu que les policiers interviennent en fin de semaine.
Ben voilà. Vous voyez ça? Les Mais non, ça aurait été, si la police était intervenue, ça leur aurait donné raison. Alors, c'est là que je voulais vous emmener, Denise, parce que...
Et en plus, je vais vous dire une chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a parmi ces gens-là, certainement, des gens qui ont des couteaux, qui ont des armes, c'est sûr, parce que vous avez aussi les illuminés à travers ça. Et les gens comment peut-on
affirmer ça? Vous étiez pas à la manifestation, donc il faut pas non plus leur prêter des intentions. Je veux dire, dans n'importe quelle manifestation, il peut y avoir des coucous.
Avec les menaces de mort qu'ils font sur Internet, sur les réseaux sociaux, on voit on voit quelles sont leurs références.
Mais je veux vous faire écouter.
Ils cherchent à Fontenay. Il y en a qui cherchent à Fontenay. Peut-être que la majorité de ceux qui étaient dans la rue, on pourrait dire qu'ils sont d'une certaine façon instrumentalisés. Mais il y a des gens qui savent ce qu'ils font parce que c'est un mouvement international, le mouvement du complotisme actuel. Vous le retrouvez dans tous les pays dans tous les pays européens. Il y a des manifestations partout.
Oui, mais il faut faire attention. Il ne faut pas non plus dire que tous les gens qui manifestent contre le masque sont des complotistes.
C'est pas ça que je dis, Sophie. Je vous dis qu'ils peuvent être manipulés. Il y a des gens qui sont manipulés. Les gens qui ne croyaient pas à ça, qui respectaient, et qui tout à coup, depuis quelques semaines ou quelques mois, disent « maintenant, j'y crois plus ». En fait, oui, c'est vrai, ils sont les victimes du discours qui est le discours de Trump aux États-Unis et de ceux qui et de ces gens-là qui aux États-Unis sont drôlement organisés.
Oui, alors parlant de discours, lors de la manifestation en fin de semaine, Lucie Laurier a parlé et je vais vous faire écouter un extrait de sa harangue quand elle a harangué la foule. Donc voici la passionnariat Lucie Laurier.
François Legault a dit qu'il était temps de sévir le citron. Alors que nous, toute notre vie, on pensait que l'État était là pour servir. En réalité, est-ce qu'il vraiment, il nous serve?
On a l'impression que c'est une caricature dans un sketch de RBO. Alors, le jeu de mots qui est fait est pas trop mal. François Legault a dit qu'il fallait sévir alors qu'on pensait que le gouvernement était là pour servir. Mais ce qu'elle dit dans le fond, Lucie Laurier, c'est que même quand le gouvernement dit on va donner des contraventions, on va pénaliser, on va faire payer des gens qui se présentent dans des commerces sans porter le masque, même ça, les anti-masques considèrent que c'est de la tyrannie, de la répression. Donc, même ça, le gouvernement ne peut même pas appliquer ses propres règles. On est rendu loin, là.
Et c'est pour ça que la démocratie est fragile. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais ça veut dire, donc, nous qui ne sommes pas violents, qui sommes contre la violence, contre les violences des rues, on se rend compte que, puisqu'ils ne respectent pas et que la police ne peut pas intervenir, parce que la police n'intervient pas. C'est clair, et on comprend pourquoi. Ça veut dire qu'on découvre que la démocratie devient facilement, non seulement fragilisée, mais impuissante. Parce qu'en démocratie, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas aller, on ne va pas... M. Legault n'est pas M. Trudeau, Il va pas.
il va pas nous envoyer l'armée.
L'abolition des droits pour dans les rues. Est-ce là le pas à faire, c'est d'interdire les manifestations. Mais vous voyez que c'est un pas de plus là, l'interdiction des manifestations, parce que l'on sait que pas la majorité, certainement, celle des gens qui étaient dans la rue, mais il peut avoir des milliers de personnes qui vont descendre dans la rue. S'il y a une loi qui interdit la manifestation, et là, les policiers vont être obligés, et là, il va y avoir affrontement. Alors, vous voyez l'escalade, où on s'en va avec ça. C'est ça qui est terriblement inquiétant.
Mais hier, j'ai fait une entrevue avec Éric Duhaime, donc le chroniqueur, animateur, parce que lui n'a pas aimé la une du journal de Montréal où on voyait donc ces manifestants, et c'était écrit « ça fait peur ». Et lui, il dit « ben moi, ce qui me fait peur, c'est quand justement les gens n'ont pas le droit de manifester dans la rue ». Et j'avoue que là-dessus, je dois lui donner raison. Moi, je veux pas vivre dans un monde où les manifestations sont interdites. C'est la preuve.
Mais c'est moi la preuve. Non plus, je veux pas vivre. Mais les gens qui ne portent pas le masque, on vous dit qu'on est en pandémie. On n'est pas dans des conflits sociaux comme on a déjà été. Hein? Quand il y a eu des manifestations, quand il y a eu le printemps érable, les gens qui étaient dans la rue n'étaient pas des gens qui menaçaient la santé. Mm-hmm. N'est-ce pas? Là, c'est le cas. Parce que ce qu'on combat, ce ne sont pas des divergences de vues sur la façon de gouverner.
Oui, mais Denise, rappelons-nous.
C'est un virus qui tue les gens.
Oui, mais Denise, rappelons-nous quand même, il y a quelques semaines, quand il y avait eu des manifestations dans les rues, des gens qui étaient descendus dans la rue pour manifester dans le contexte de l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, donc une manifestation pro-Black Lives Matter. Il y avait aussi des milliers de gens dans les rues et très peu portaient le masque. Et pourtant, on n'a pas dénoncé cette manifestation-là de façon aussi virulente. Pourquoi? Parce que la cause, dans les médias en tout cas, semblait une cause noble. Donc, on a un petit peu une attitude à géométrie variable face aux manifestations.
On ne peut pas comparer les manifestations contre le racisme aux États-Unis aux manifestations contre le masque ici et nous. Ce n'est pas de même nature. Les États-Unis...
Mais il y a eu des manifestations ici, Denise. Il y a eu des manifestations ici au Québec pour Black Lives Matter.
Mais la majorité des gens qui sont descendus, à ma connaissance, ils ne revendiquaient pas de ne pas porter le masque.
C'était pas leur revendication, mais il y en a beaucoup qui ne le portaient pas.
Donc, il faut faire un lien entre des gens qui défendent, qui prétendent être antiracistes. Et en même temps, ils sont, s'ils ne portent pas le masque, c'est qu'ils défient et ils disent qu'ils nient le danger dans lequel nous sommes tous, c'est le danger d'être contaminé. Mmh. Et ça, on le sait, c'est si on ne raisonne pas, si on accepte plutôt les délires de Mademoiselle Laurier et d'autres comme elle, qui sont devenus des porte-voix de l'irrationalité et des fausses nouvelles et de la négation de la science, à ce moment-là, comment on fait pour vivre en démocratie? Comment on fait? Les gens qui se privent, tous les gens, vous et moi et tout le monde qui se prive de sortir, de rencontrer des gens qu'ils ont envie de rencontrer, de ne pas faire des réunions où est-ce que on risque d'être contaminé. On se prive de vivre normalement. Nous vivons dans l'anormalité.
On se prive de spectacles, on se prive, moi, j'ai
on
une...
Se prive de tout.
On se prive de tout.
Ça veut dire que le théâtre est merveilleux, ça a repris. Mais avez-vous vu combien il y a de gens dans les salles? On est toute l'expression culturelle et on va laisser des gens comme ça faire et si on intervient, qu'est-ce que ça va donner? Parce que, quelles sont les conséquences? On ne veut pas d'affrontement non plus, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui soient blessés.
Et on ne veut pas que ce soit pire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus que si le gouvernement intervient, que ça empire et que ça donne des munitions à ces gens-là. Parce qu'à partir du moment où les anti-masques, les anti-mesures sanitaires disent « le gouvernement est contre nous, le gouvernement nous impose, le gouvernement nous bâillonne, c'est une tyrannie, c'est une dictature », si le gouvernement, justement, sévit et fait intervenir la police en force, ben là, ça leur donne des munitions à ces gens-là. Ils disent « Ah, ben voyez, on vous l'avait dit que c'est une dictature. La preuve, c'est qu'ils envoient les policiers contre de simples citoyens. »
En démocratie, on n'est pas libre de faire n'importe quoi. On est obligé de porter des ceintures au début. Quand on a le port des ceintures, ça crée des débats. Mais on sait très bien que depuis le port des ceintures, ça a baissé considérablement. Mais il y a aussi le fait que les autos sont mieux construites et tout, mais ça a baissé le nombre de morts. On n'a pas le droit de faire ça. On est obligé de respecter les feux de circulation. Si on les respecte pas, eh ben, on va avoir des contraventions. On est obligé de respecter. Il peut bien dire, moi, je le sens comme ça. Je veux conduire à 160 000 à l'heure. J'épanouis mon moi. Et vous savez que pendant la pandémie, comme on voit que les gens deviennent coucou, vous avez vu le nombre de gens qui se font arrêter à 200 à l'heure puis 240 à l'heure.
Ouais. Mais de toute façon, on vit dans une société où on est constamment en train de limiter.
Mais c'est la seule façon de vivre en société. Hein? Parce que l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Et on accepte ça. C'est des acceptations qui sont obligatoires si on veut avoir une sorte de vivre ensemble qui soit tolérable et acceptable et même agréable.
Je considère, Denise, que ma liberté est totalement brimée. Parce que aujourd'hui, le 15 septembre, j'aimerais ça me promener toute nue dans la rue puis aller faire mes courses en flambant nu. Mais la société m'en empêche. Et moi, je trouve que ma liberté est brimée. Non, j'ironise bien sûr. Denise, le premier ministre François Legault nous dit qu'il va y avoir une adresse solennelle. Qu'est-ce qu'il devrait dire? Quel ton devrait-il employer pour parler aux Québécois? Parce que, il y a eu, comme un père, comme un parent, il a utilisé toutes sortes de tons. Moi, avec mon fils, des fois, j'essaie d'être gentil, des fois, je suis sévère, des fois, c'est des punitions, des fois, j'essaie de raisonner, des fois. Puis, à un moment donné, je sais juste plus comment lui parler. Ben, j'ai l'impression que François Legault, c'est un peu comme ça, il ne sait plus comment nous parler. Alors, qu'est-ce qu'il devrait nous dire, François Legault, d'après vous?
François Legault, de par sa fonction, est la personne au Québec qui incarne et qui représente et qui parle au nom de tous les Québécois. C'est ça, démocratie. Hein? Parce que, avec le raisonnement des gens qui disent, ben, moi, je veux faire ça comme ça, on pourrait décider, les gens, les partis d'opposition pourraient décider de ne pas reconnaître une élection parce que M. Legault n'a pas été élu avec la majorité de la population. Il a été élu par la majorité de sièges qu'a reçu son parti. Mais ça ne représente pas 50,1% de la population, ça. Donc, ils pourraient dire, ben moi, je ne respecte pas ça. Et on vit dans un système de règles et de contraintes. Monsieur Legault parle à tous les Québécois.
Qu'est-ce qu'il devrait dire, Denise?
Il faut que ça soit solennel parce qu'il faut montrer que nous sommes dans la gravité. Nous sommes dans une situation de gravité et d'inquiétude. Et il faut qu'il monte aussi, non seulement qu'il nous protège, mais il faut qu'il montre bien aux Québécois qui croient à la démocratie. C'est la très grande majorité. D'ailleurs, les partis d'opposition, là-dessus, on voit comment ils fonctionnent. Ils sont respectueux de tout ça. Tous les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale à cet égard, n'est-ce pas? Parce qu'on sent que le moment est grave et que c'est pas le temps de faire de la politicaillerie avec ça. Il faut qu'il montre que, en démocratie, on peut utiliser des moyens, mais jusqu'à un certain point, parce qu'on ne va pas emprisonner les gens qui vont descendre dans la rue. En général, on veut pas ça. Mais eux, ils s'en foutent. ceux qui veulent vraiment l'affrontement, ils vont continuer de le faire. Et à ce moment-là, quand il en restera moins que 10 000 qui amènent les enfants là aussi, avec le type de, en plus, avec le type de pancarte, ce qui est écrit sur les pancartes, c'est pas très édifiant, n'est-ce pas? Et puis de la façon dont ils utilisent les drapeaux, ça ne l'est pas non plus. Ils désacralisent les drapeaux, en fait. Quand vous écrivez sur le drapeau du Québec, Legault, un traître, et vous écrivez ça sur le drapeau du Québec, vraiment, c'est une insulte au drapeau qui représente aussi quelque chose et qui représente aussi le Québec. Alors donc, il faut qu'ils puissent montrer jusqu'où on peut aller. Mais en démocratie, nous ne sommes pas en dictature. Ces 10 000 personnes-là dans la rue ne circuleraient dans aucun pays.
Ben non,
c'est la
sûr.
Majorité des pays du monde où il n'y a pas de démocratie.
Bonne chance pour manifester, en Iran, voilà. En Corée du Nord. Voilà. Bonne chance pour aller manifester à 10 000 personnes pour contester l'autorité. Denise, merci beaucoup. Et on souhaite en effet que François Legault fasse preuve de toute la gravité dont il est capable, parce que en effet,
donc, sa fonction est habité par sa fonction, parce qu'il a le sens de sa fonction. C'est ça qu'il a dit depuis le début. C'est pour ça qu'il est appuyé par la population aussi. C'est qu'il se comporte pas comme un politicailleur. Ici, il a été habité par la fonction.
Absolument.
Il a le rôle. Il incarne l'État québécois. Voilà.
Parfait. Denise, merci. Et en espérant que François Legault saura faire preuve de toute cette gravité dont on sait qu'il est capable. Merci beaucoup. Puis on se reparle la semaine prochaine, Denise.
Oui, au revoir.
Merci.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher.
Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Bon, je suis habituée comme chroniqueuse d'opinion et c'est une des rares fois où vraiment, là, je vais utiliser la carte « Je suis une femme et le traitement est différent pour les femmes ». Donc, je suis habituée comme chroniqueuse d'opinion de me faire varloper, de me faire traiter de tous les noms, je me suis construit une carapace au fil des ans, je suis capable d'en prendre, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Mais de temps en temps, ma petite carapace se fêle. Parce que de temps en temps, il y a des gens, des ploucs, des crétins, des morons, des tapons sur Internet qui choisissent de ressortir le vieux refrain de « Elle, la raison pour laquelle elle est rendue là, c'est juste parce que son chum s'appelle Richard Martineau ». Je ne sais pas comment vous dire à quel point ce commentaire-là me tombe sur les nerfs. Et c'est arrivé encore une fois aujourd'hui. Et je remercie le collègue Steve Fortin parce que c'est lui qui a porté ça à mon attention. Donc, c'est un plouc, un crétin, un moron, un tapon sur Internet qui s'appelle Maxime Saunier et qui a tenu vraiment des propos dégradants à mon sujet. Alors, je me suis dit, j'ai envie d'en parler avec quelqu'un parce que ça fait du bien d'en parler. Mais je préfère en parler avec quelqu'un qui... Un, a déjà subi le même genre d'attaque, et deux, quelqu'un qui connaît bien les médias sociaux parce qu'elle est consultante et conférencière en stratégie web, c'est Michèle Blanc. Bonjour Michèle.
Ah ben bonjour.
Écoute, je vais, pour le bénéfice de tout le monde, identifier donc le crétin en chef qui a écrit ces insultes à mon sujet. Il s'appelle Maxime Saunier. Il y a une belle photo de lui là sur son compte Twitter. Il réagissait à quelqu'un qui m'attaquait, quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, ça c'est correct. Et il a écrit la chose suivante à mon sujet. La seule raison qu'elle est une personnalité publique connue, c'est parce qu'elle est la plotte à Richard Martineau. C'est son seul accomplissement qui lui a octroyé sans effort une tribune, un micro dans une émission de radio et à la télé, être la vide couille de son clown artichaut. Fin de la citation de Maxime Saunier. Qu'est-ce que je fais avec ça, Michel?
Malheureusement, il n'y a pas de menace. C'est sûr que... C'est difficile de lire les choses à même. Puis je vais dire, parce que, bon, comme tu sais, je l'ai vécu plusieurs fois.
Ben oui.
J'ai traîné 3 personnes en cour. Ils ont tous les 3 été reconnus coupables. Le dernier a pogné 6 mois de prison. Mais, évidemment, il y avait des menaces physiques évidentes. Ça tombe dans le mauvais goût, ça tombe dans la connerie, mais d'être con n'est pas criminel. Et,
oui, c'est pas contre la loi d'être con.
Non, tu sais, ça c'est triste. Et ce qui est malheureux, et ce que ces gens-là ne réalisent pas, c'est que ça affecte psychologiquement les personnes qui en sont victimes. Ça les affecte, moi, personnellement, comment ça m'avait affecté.
C'est que, évidemment,
ça te rend profondément triste. Et pour ne pas atteindre cette tristesse-là, tu développes un réflexe de colère. Alors, ton agressivité va augmenter pour ne pas atteindre cette tristesse-là, cette profonde tristesse-là. Et malheureusement, inévitablement, avec le temps, tu vas avoir besoin de consulter. Puis quand tu consultes, tu te rends compte que tu es profondément triste et que ton mécanisme de défense, c'est d'être plus colérique. Je l'ai expérimenté, je suis allé en thérapie, j'en ai discuté amplement. Puis d'en discuter avec moi aujourd'hui, c'est la bonne chose à faire parce qu'évidemment, moi, je peux comprendre ta douleur puisque je l'ai vécu moi-même. Et les gens qui se font maltraiter sur le web ont besoin de ventiler, ont besoin de discuter, ont besoin de d'en parler. Et surtout, ils doivent faire des copies d'écran de ce genre de conneries-là. Parce que des fois, ça commence par une connerie et ça se poursuit par des menaces. Et faisant des copies d'écran, évidemment, tu peux montrer la progression des insultes. Et quand quelqu'un t'insulte, tu peux lui dire de cesser ses insultes et que s'il continue, ça peut devenir du harcèlement.
Ouais,
le harcèlement, est considéré criminel.
Absolument. Mais tu vois, moi, j'attire l'attention des gens aujourd'hui là-dessus parce que c'est moi qui suis la cible. Mais écoute, hier, c'était Pascal Bérubé et Annie Soleil-Proto. Donc, et Pascal Bérubé, est-ce qu'il a fait la bonne chose? Il a donc fait une capture d'écran de ce gars qui disait « Vous pourrez pas, toi, ta blonde et toi, vous promener tranquillement dans la rue. » Il a fait une capture d'écran, il a mis ça sur Twitter, il a attiré l'attention de tout le monde et il a porté plainte à la police. Ça, c'est la bonne chose à faire?
Tout à fait. Puis bon, on va s'entendre que M. Bérubé a quand même l'avantage qu'il y a un service spécial de la Sûreté du Québec pour la protection des élus et que là, ça va pas mal plus rapidement. La problématique avec la police, c'est que si vous, citoyen normal, faites une plainte, ça va dépendre parce qu'évidemment, il faut que votre plainte soit prise. Et pour qu'elle soit prise, il faut que vous ayez à votre poste de quartier. Et ça va dépendre de l'agent qui va répondre. Parce qu'évidemment...
Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va dépendre de l'agent.
C'est que l'agent, il va essayer de minimiser, il dit que c'est pas grave, que c'est Internet, etc., etc. Les agents qui sont dans les postes de quartier ne sont pas formés pour les agressions numériques. Tu sais, je vais te rappeler le fameux cas de Champagne qui menaçait Guy Lepage, Valérie Cloutier, les grandes gueules, et moi-même. Moi, j'avais porté une plainte qui n'avait pas été prise au sérieux. On avait retourné de bord. On m'avait même dit de changer de numéro de téléphone. alors que c'était mon numéro de téléphone d'entreprise. Et quand Guy Lepage a sauté une coche sur Twitter le lendemain matin, il y avait deux enquêteurs et un capitaine des relations publiques qui étaient là pour prendre la plainte très sérieusement. Et moi, je suis arrivé avec le même dossier que j'avais déjà présenté et qu'on avait refusé de prendre, qui incluait l'adresse de la personne en question. Et évidemment, tout le dossier était monté. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est d'aller cogner à sa porte et de l'arrêter. Parce qu'évidemment, il y a plein de plaintes. Puis les policiers, je les comprends, ils sont débordés. Puis à un moment donné, ils doivent discriminer qu'est-ce qui est une plainte sérieuse et qu'est-ce qui n'est pas une plainte sérieuse. Sauf que leur travail n'est pas un travail de procureur de la couronne. En principe, leur travail, c'est de prendre la plainte. Mais tant que tu n'auras pas un numéro de dossier, tu n'auras pas de plainte. Parce que ce qui fait foi que tu as une plainte, c'est que tu as un numéro de dossier. Donc, c'est la preuve que la plainte sera traitée. Et quand une plainte est prise, ils ont des escouades extrêmement pertinentes. La seule problématique, c'est que les escouades techniques, si on parle du SPVM, par exemple, La personne qui va traiter ce genre de dossier-là est la même personne qui doit se taper un vidéo de vol de dépanneur, puis on s'entend que il va avoir une méchante pile de vidéos à regarder, en plus de s'attaquer aux plaintes numériques. L'autre problématique est que, par exemple, la personne que tu nommes, bien qu'elle a son nom et sa face, il faut prouver que c'est bien elle, et il faut aussi prouver que cette personne, était derrière le clavier. Parce que la personne pourra toujours évoquer qu'elle était dans un café Internet, elle est allée aux toilettes, puis que quelqu'un d'autre a écrit une insulte.
Oui, un vol d'identité, quoi.
Pas un vol d'identité, mais une usurpation d'identité pendant quelques instants. La personne revient, continue, et s'est pas rendu compte qu'il y a des insultes qui ont été mises sur son compte dans le temps qu'elle était aux toilettes. Donc, c'est pas simple. Puis ça, c'est déjà, c'est plus simple que quand la personne utilise le subterfuge d'un pseudonyme, mais même avec un pseudonyme, c'est possible d'identifier les personnes. Mais c'est des procédures qui sont difficiles, qui sont longues, évidemment, qui demandent une certaine expertise et surtout qui demandent de très, très bons enquêteurs pour faire cracher le morceau quand les présumés fautifs seront devant eux.
Mais j'ai une question plus large pour toi, Michel. Qu'est-ce qui explique, là on rentre plus dans la psychologie que dans l'informatique ou dans le criminel, qu'est-ce qui explique selon toi que quelqu'un se lève le matin et ne cherche même pas à être discret? Tu sais, je veux dire, quelqu'un, la personne qui a fait des menaces contre les deux bozos qui ont fait des menaces de mort contre François Legault, le bozo qui a fait des menaces envers Pascal Bérubé et sa blonde, le bozo qui, dans une moindre mesure, bien sûr, les menaces sont pas les mêmes, me traite de vide-couille et de plot de Richard Martineau. Ces gens-là, là, qui mettent, mettons que c'est sa vraie photo au gars, là. C'est à quoi ils pensent, ces gens-là? J'essaie de comprendre le processus mental de cette personne-là.
Bon, écoute, moi, étonnamment, toutes les personnes qui ont été accusées et qui ont été reconnues coupables semblaient avoir des troubles psychologiques. OK? après ça, une des problématiques, c'est toute la notion de « j'ai le droit » puis « c'est ma liberté d'expression ». Les gens réalisent pas que liberté d'expression vient avec une responsabilité et que, de toute évidence, tu as le droit, tu as une liberté d'expression, mais elle n'est pas sans limite. Quand ta liberté d'expression enfreint l'honneur et la dignité de quelqu'un d'autre, tu viens d'atteindre la limite. Ces gens-là, c'est pas grave, c'est sur Internet. Non, c'est grave, c'est sur Internet. Et avant ça, tu sais, la médisance, c'est quand même malheureusement dans la nature humaine.
Tout à fait, c'est sûr.
La médisance, avant ça, tu sais, souvent on dit Internet a remplacé le perron de l'église, ce qui est une très mauvaise analogie, parce que sur le perron de l'église, il y avait quand même le curé qui se tenait debout. Alors, tu n'as pas tant que ça.
Oui, c'est vrai. Et tu as tellement raison, Michel.
À côté du curé.
Ben oui, tu disais pas...
Je dirais plus... Il disait que la meilleure analogie, c'est la taverne. Dans la taverne, tu pouvais déconner, tu pouvais dire toutes les conneries que tu voulais, et ça ne sortait pas de la taverne. Alors, les médias sociaux sont devenus la taverne planétaire. Et on va dire que c'est la faute d'Internet. Dans une certaine mesure, c'est la faute d'Internet, mais dans une grande mesure, c'est la faute des usagers comme tels. Parce que la technologie, en principe, est neutre et elle peut servir aussi bien le bien que le mal. Et l'utilisation que t'en fais, ça va déterminer si c'est du bien ou si c'est du mal. Donc, c'est vraiment les individus. Et ce qui est malheureux, c'est que il y a le phénomène de bulle qu'on entend souvent. Puis les bulles, c'est que on te présente les contenus auxquels tu es d'accord et t'es ami avec des gens auxquels tu es d'accord. Alors, ça renforce le sentiment que tu parles en zone de sécurité, parce que tout le monde devrait penser comme toi. Et quand tu fais des insultes, il y a aussi évidemment la valorisation
absolument.
De se faire cliquer et de
tes pairs,
de se faire dire que waouh, parce que là évidemment il y a du monde qui vont trouver que Sophie Durocher effectivement c'est tout à fait vrai. Tu sais, moi, ça me rappelle comme moi, quand que après que j'ai changé de sexe, il y a du monde qui me disait que si j'avais du succès, c'est parce que j'avais changé de sexe.
Ah oui, bien sûr.
Puis moi, ma réponse, c'était si tu penses vraiment que c'est ça qui s'apprend pour changer, pour avoir du succès, gêne-toi pas. Fais comme moi, on n'est pas assez, alors.
C'est ça, c'est une très, très bonne réponse. Et ça, c'est une bonne attitude, Michel, parce que une des façons aussi de faire face à ces gens-là, pas évidemment quand ils te font des menaces de mort, mais quand ils te traitent de vide-couille, c'est l'humour. C'est juste que moi, quand je me suis réveillée ce matin, j'avais pas trop le sens de l'humour quand j'ai vu ça, mais ça peut être une façon aussi de désarmer tout ça. C'est de les ridiculiser ou de traiter ça par l'humour. Ça, c'est une bonne arme pour contrer ces gens-là.
Tout à fait. Puis en même temps aussi, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a tout le temps la sagesse publique qui dit si on ne veut pas, on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose, ou qui dit ne leur donne pas d'importance, oublie ça, etc., etc. Et ces sagesse populaire-là, dans une certaine mesure, encourage ce type de comportement-là.
Voilà.
Parce que si tu fermes ta gueule, tu cautionnes le fait que cette personne-là, c'est correct, ce qu'elle fait, puis qu'elle devrait continuer de le faire.
Tandis que qui ne dit mot qu'on sent, comme on dit, ouais, c'est ça.
Ouais, mais si tu te tiens debout, ben là, tout d'un coup, t'es une bitch, puis évidemment, ben t'as tous les défauts du monde aussi. Puis tu sais, je vais faire, si tu me le permets, je vais faire une petite parenthèse. Parce que moi, j'ai écrit un billet en fin de semaine à propos d'une personne qui s'appelle Patrick Lagacé.
Ah oui.
Qui est allé dire sur toutes les tribunes, avant même que je sois candidate officielle au Parti québécois, que moi j'étais une espèce de folle qui écrivait n'importe quoi sur les médias sociaux, que je sacrais abondamment, bref, que je faisais des singeries. Et moi, à cette période-là, je n'avais pas le droit de répondre, puisque c'était une campagne électorale et que je devais laisser le micro à mon chef pour ne pas dévier la campagne. Et une fois que M. Lagacé a parti le bal, tous les journalistes se sont mis sur mon cas et j'ai été accablé tout le long de la campagne pour quelques tweets sur 80 000 qui, sortis de leur contexte, faisaient de moi une espèce de folle enragée. J'ai fait l'exercice pour une petite portion des contenus de M. Lagacé où il utilise les mots nègre, fif,
oui, j'ai vu.
Nègre, calvaire, Chris, esti, etc. Et évidemment, je disais à M. Lagacé qui traite de haut et toutes les gens qui font des singeries, tes contenus sont vraiment pas élogieux, mais évidemment, ces contenus-là, c'est une infime portion de l'ensemble de tes contenus, pareil comme les contenus qu'il avait pris pour moi
c'est
sur 80 000 tweets.
C'est une très bonne démonstration.
Ouais, si ça en prend 100 sur 80 000, on sentait que le ratio là est pas très, très élevé. Et c'est même normal, une fois de temps en temps, de sauter la coche et d'utiliser des mots d'église. D'ailleurs, étonnamment, quand j'avais fait il y a un an un billet qui expliquait un peu ma descente aux enfers de la couverture médiatique électorale, j'avais pris anonymement des contenus entre guillemets de singerie, comme le dit M. Lagacé, de plusieurs journalistes. Et il y a un journaliste qui travaille à Québec, qui est M. Dutrisac, qui avait reconnu un de ses tweets tout de suite il m'a appelé pour faire une entrevue et j'ai fait l'entrevue avec lui. Il reconnaissait qu'effectivement c'était un tweet assez dur, et ce tweet-là, il l'avait fait le lendemain du Bataclan.
Oui. Non, c'est ça, mais c'est facile. C'est facile aussi ce que tu as démontré, parce que je l'ai lu ton billet sur Pat Lagacé. Ce que tu démontres, c'est que c'est très facile de prendre l'ensemble de l'œuvre de quelqu'un, d'isoler deux ou trois trucs pris isolément, pris hors contexte, et de dépeindre le caractère de cette personne-là comme étant ceci ou cela. C'est un processus qui est très facile et qui est très de mauvaise foi. Donc tu l'as démontré de façon assez magistrale. Et écoute, je pense que, par contre, quand il y a des réels dérapages, des menaces de mort, des menaces, tu sais, c'est sûr que le gars qui me traite de vide-couille et de plot à Martineau, c'est sûr, c'est pas une menace directe, mais je vais dire que dans mon intégrité de femme, là, je me sens assez atteinte. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, je voulais te parler pour avoir tes bons conseils. Et écoute, moi, les gens qui me disent « tu devrais pas en parler, tu devrais pas attirer l'attention là-dessus », je leur dis « moi, je préfère toujours me tenir debout ». C'est comme ça que j'élève mon fils de 12 ans. Et je pense que quand on est attaqué dans notre intimité, il faut qu'on se tienne debout, Michel.
Tout à fait. Puis je l'avais déjà fait auparavant. On va se souvenir de personnes qui parlaient de « sort dans le vagin ». Oui. Tu l'avais emporté haut la main. Puis effectivement, si tu fermes ta gueule, ben tu cautionnes ce type de comportement-là. Et tu sais, à un moment donné, pour que ces conneries-là arrêtent, il faut le dire. Il faut se tenir debout.
Absolument.
Puis évidemment, évidemment, se tenir debout, ce n'est pas facile. C'est délicat. Et quand tu te tiens debout, c'est dur aussi se tenir debout. Tu l'as expérimenté, je l'ai expérimenté. C'est plus facile faire l'autruche. Sauf que de faire l'autruche, ça changera pas les choses et ça n'améliorera pas les situations. Alors, moi, je te félicite d'en parler. Je te félicite de te tenir debout. Puis, de toute évidence, tu exerces un métier qui est difficile. Parce que tu exerces un métier polémiste. Et dans la polémie, dans les polémiques, quand on parle d'une médaille, on dit souvent qu'une médaille a deux côtés. La réalité, c'est que la médaille a trois côtés. Parce qu'on oublie souvent l'épaisseur de la médaille, qui est un des côtés de la médaille.
C'est vrai. Je te fais une prédiction, Michel. Moi, je vais faire une grosse sortie contre ce gars-là, là, Maxime Saunier, puis je vais m'arranger pour que son tweet circule et que les gens le dénoncent. Mais je te fais une prédiction. Quand Penelope McQuaid, quand Judith Lucier, quand Geneviève Peterson, à une certaine époque, avaient dénoncé des attaques dont elles étaient la cible sur les médias sociaux, parce que ce sont des personnalités plus associées à la gauche, ça provoque un tollé. Puis là, ils font des débats à Radio-Canada, puis mon Dieu, c'est donc ben effrayant. Puis quand ça arrive à quelqu'un comme moi ou Lise Ravary ou Denise Bombardier, qui sont plus identifiés à droite, silence radio. C'est ça que écoute, je te prédis. On va se quitter là-dessus, Michel, malheureusement. Oui.
Ouais. Hey, gros bisous.
Gros bisous, Michel. Puis on continue à se tenir debout, nous.
Oui, tout à fait. Puis bravo.
Merci. Michel Blanc, donc, j'avais envie d'avoir ses lumières parce que je sais qu'elle a traversé le même genre de situation. Consultante et conférencière en stratégie web. C'est bizarre, hein? Quand c'est des attaques contre les femmes, c'est toujours des attaques sexuelles. Puis je dis pas que je suis attaquée parce que je suis une femme, mais les attaques sont différentes. Quand c'est un gars, on dit « t'es un crétin, t'es un incompétent, on va te casser la gueule ». Puis quand c'est une fille, faut forcément que ça ait à voir avec ce qu'on a entre les deux jambes. Ben moi, je vous le dis aujourd'hui, 15 septembre 2020, ma tante est tannée. Sophie Durocher, là, elle n'a jusque-là des Maxime Saunier de ce monde.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cube.radio.
Si vous êtes inquiet des dérapages fréquents de la Direction de la protection de la jeunesse, si vous avez à cœur le bien-être des enfants au Québec, vous devez connaître ou suivre sur les médias sociaux Maître Valérie Assouline, parce qu'elle se fait vraiment une porte-parole, une porte-voix de certains dérapages. Ça ne veut pas dire qu'il y en a tout le temps il y a des bons coups, mais il y a aussi des mauvais coups à la direction de la protection de la jeunesse. Et tout récemment, Maître Valérie Assouline a publié sur son compte Facebook une histoire qui me fait dresser les cheveux sur la tête. Je me suis dit, bon, je vais l'appeler. Elle va pouvoir raconter elle-même aux auditeurs, aux auditrices de Cube Radio de quoi il s'agit. Maître Assouline, bonjour.
Bonjour.
Racontez-nous cette toute dernière histoire qui vous bouleverse, moi me bouleverse et va bouleverser aussi sûrement les auditeurs.
Oui, eh bien cette histoire, il s'agit d'une mère qui a 5 jeunes enfants, qui quitte son conjoint violent, contrôlant, qui a toujours été la principale donneuse de soins pour ses enfants et qui un soir a un épisode de violence conjugale et la police s'est appelée sur les lieux et la police appelle la DPJ. Et c'est là où tout dégringole, où les enfants sont finalement placés avec le père, où cette mère se retrouve à être du côté du mauvais parent, supervisée pour voir ses enfants. C'est le monde à l'envers, Twilight Zone comme j'appelle.
Un cauchemar.
C'est un cauchemar, mais un cauchemar, cette histoire, c'est l'histoire aussi de plusieurs victimes de violences conjugales. La violence conjugale est incomprise. Les traumatismes que vivent ces mères et ces pères, parce qu'il y a aussi des hommes, la violence conjugale
Absolument.
N'a pas de sexe. Et le traumatisme que vivent ces victimes n'est pas considéré par la DPJ. Ils ne comprennent pas.
D'accord. Moi, je veux revenir sur certains détails, sur certains éléments que vous venez nous donner, Maître Assouline. Bon, quelque chose qui m'interpelle énormément, c'est que vous nous dites, d'un côté, donc la police intervient parce qu'il y a un cas de violence conjugale, et après, vous nous dites, ben, les enfants sont confiés au père. Dans ce cas-ci, c'est le père présumé donc être l'agresseur, ou en tout cas celui qui a fait de la violence conjugale. Donc, par quel tour de passe-passe la DPJ a confié les enfants au père?
Eh bien, c'est le père qui va écoutez, quand la DPJ s'implique dans un dossier de violence conjugale, ça devient surtout un dossier de conflit parental.
D'accord.
Ils occultent complètement la violence conjugale. Alors là, on parle de conflit parental. Et si les enfants sont réticents à aller voir l'autre parent qui est violent, on va mettre ça sur un problème d'aliénation parentale. Donc, dans un dossier comme celui-là, cette mère est une mère aliénante parce que les enfants veulent pas aller chez ce père violent. C'est de la folie.
Donc, la DPJ, pour bien comprendre, Maître Assouline, la DPJ, dans ce cas-ci, en tout cas, dit ou présume que si les enfants disent « on veut pas aller avec papa », c'est qu'ils se sont fait laver le cerveau par maman qui leur a dit « papa est pas gentil », en gros.
Exact. Exact. Maman, à force de marteler que papa, il est violent, ben il est violent. Et ça, c'est même si il y a eu la police qui est venue sur les lieux. C'est assez hallucinant combien de parents violents peuvent avoir la garde de leurs enfants parce qu'on met ça sur le dos du conflit parental.
Mais en même temps, Maître Assouline, il faut le reconnaître, il y a aussi des cas réels d'aliénation parentale. Je peux pas me prononcer évidemment sur ce cas-ci, mais ça existe, c'est pas une invention, c'est pas une lubie non plus. Il y a des mères et des pères qui utilisent les enfants comme monnaie d'échange pour mal faire paraître leur conjoint ou leur ex-conjoint.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais lorsqu'il y a de la violence conjugale, lorsqu'il y a un problème, par exemple, d'alcool, lorsqu'un enfant va verbaliser, par exemple, que de l'autre côté, papa boit, et à chaque fois que cet enfant revient chez son parent, il dit « bon, mais mon autre parent boit », dans ce temps-là, on se dit qu'il y a peut-être un problème d'alcool ou il y a peut-être un problème de violence conjugale. Lorsque la police est intervenue sur les lieux, c'est que la violence, elle est là. On la constate, on l'a pas inventée. Comment est-ce que c'est occulté complètement? Comment est-ce que la violence conjugale se retourne contre l'agressé? C'est de la folie et c'est ce qu'on voit tout le temps. Alors on va malheureusement, la victime se retrouve dans un tourbillon et elle devient prisonnière du système, jugée et pas aidée. Alors une mère comme celle-là aurait dû être aidée. On aurait dû l'aider, elle a quitté, on lui reproche d'être pas organisée, d'être peut-être de manquer d'organisation. Mais on est en temps de pandémie, avec 5 enfants, avec un conjoint qui quitte parce qu'il est violent, mais mettez-vous à sa place.
Ben oui, même en temps normal, déménager, se trouver un logement quand on est une femme seule avec 5 enfants, c'est pas évident. En période de pandémie, encore plus. Donc, il peut y avoir toutes sortes de circonstances atténuantes, disons ça comme ça, qui font en sorte que, en effet, quelqu'un peut être désorganisé. Écoutez, moi, j'ai juste un enfant et j'ai un excellent conjoint, puis je me trouve pas mal désorganisée des fois. Alors, je peux pas imaginer ce que c'est en avoir 5 et être dans des situations de violence conjugale. Il y a un autre élément dans votre présentation des faits au début, Maître Assouline, qui m'a interpellée, c'est quand vous dites que cette mère, elle ne peut voir ses enfants que sous supervision.
Et voilà.
C'est mon cœur de mère, mon cœur de maman est brisé en 1000 morceaux.
Oui, mais je pense à cette mère, mais je pense à d'autres mères qui ont aussi été victimes de violences conjugales et qui ont été subitement supervisées dans les accès. Supervisées parce qu'on leur reproche d'aliéner les enfants. Et que si les enfants verbalisent d'avoir eu ou d'avoir subi des agressions ou d'avoir vu un père alcoolique ou d'avoir vu un père se droguer, c'est de la faute à la mère. Et c'est là où ça dérape. Et ce genre de dérapage, il y en a plusieurs. Et une fois que cette mère est supervisée, vous savez, à force de regarder une personne, on va trouver des mouches, hein, on va trouver des problèmes. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'on supervise et la supervision ne se termine pas. Et il y a des mères qui peuvent être supervisées pendant des années par des intervenants qui ne sont pas toujours formés.
Oui, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans votre discours et vous êtes pas la seule bien sûr, mais c'est quelque chose d'assez flagrant là quand même et on espère évidemment que la commission Laurent va vraiment mettre la lumière là-dessus sur le manque ou l'absence ou les failles de formation dans les intervenants à la direction de la protection de la jeunesse. Bon, il y a un autre élément que vous avez évoqué dans votre statut Facebook où vous relatez cette histoire là. Vous dites que la mère est à ce point déstabilisée de la situation actuelle qu'elle en vient à se reprocher ou à regretter d'avoir ce jour-là fatidique appelé la police pour se plaindre de violence conjugale parce qu'elle se dit ben si j'avais pas appelé la police ben peut-être que j'aurais encore mes enfants contact avec mes enfants aujourd'hui. Donc c'est fou, on est en train de créer une situation où une femme ou un homme qui se sent menacé, qui pense qu'elle est victime de violence, va y penser à deux fois la prochaine fois parce qu'il se dit peut-être que je vais perdre la garde de mes enfants si je le fais.
Mais j'ai reçu de nombreux témoignages suite à cette publication, nombreux témoignages de personnes qui me disaient « Écoutez, j'ai lu mon histoire et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai regretté d'appeler la police ce soir-là parce que j'aurais eu mes enfants aujourd'hui. » Donc, c'est pas unique, c'est pas une situation qui est isolée. J'invite Monsieur Carman à venir passer une semaine à mon bureau et voir ce que je vois. Je l'invite à venir au tribunal pour voir les demandes qui sont faites. Des fois, on se demande comment se fait-il qu'on va recommander, que la DPJ va demander de placer un enfant avec une mère alcoolique ou avec un père alcoolique, avec un parent toxicomane. Et c'est ce genre d'incohérence que j'arrive pas à saisir encore. C'est comme si lorsqu'ils partent dans une voie, dans un dossier, les intervenants, et elles y vont tout droit, même si tout droit, il y a un mur. Et on oublie l'enfant, parce que dans ce dossier-là, enfants-là, leur mère a été la principale donneuse de soins. Dans ce dossier-là, c'est la mère qui s'occupait des rendez-vous avec les médecins, des rendez-vous avec les professeurs à l'école. Et du jour au lendemain, on enlève cette mère pour aliénation parentale, on enlève un parent. C'est ce que la DPJ a trouvé comme solution. Lorsqu'ils pensent qu'il y a un problème d'aliénation parentale, ils aliènent un parent. Complètement. Et des dossiers comme celui-là, il y en a trop.
Et c'est pour ça que c'est important le travail que vous faites. Et moi, je vais continuer sur les ondes, à l'écrit, de souligner ces causes-là, parce que il y a des aberrations. C'est sûr que c'est pas la majorité des cas, mais quand il y a des cas comme ça, il faut le dénoncer ou à tout le moins s'interroger sur les motivations de la DPJ et se poser surtout, comme vous le faites, Maître Assouline, la question fondamentale: où est l'intérêt de l'enfant? Où est, dans tout Absolument. Ça, l'intérêt de l'enfant? Parce que des chicanes entre parents, il va toujours y en avoir. Puis c'est sûr que c'est jamais tout blanc, tout noir. Les torts sont jamais à 100% d'un côté, puis que l'autre est innocent, pur et n'a rien à se reprocher. Donc, il y a beaucoup de zones Exact. Grises. Mais à partir du moment où on se dit notre seule étoile dans le ciel sur laquelle on se guide, c'est l'intérêt Oui. de l'enfant... Ben, je pense que c'est Oui. ça qui devrait orienter toutes les décisions. En tout cas, c'est toujours intéressant de vous parler et de réfléchir avec vous Merci. Sur tout ça, surtout quand vous apportez, quand vous amenez à notre connaissance des dossiers qui vraiment sont à dresser des cheveux sur la tête. Merci beaucoup, Maître Assouline.
Merci à vous. Merci beaucoup d'en parler.
Maître Valérie Assouline, donc, est avocate chez SOS Avocat. Puis, en effet, SOS, c'est un petit peu le mot qu'on a envie de lancer quand on voit ce genre de situation-là. Et j'espère que l'émission vous a plu. C'est comme ça que ça se termine. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde et à la réalisation, puis Hugo Veilleux à la recherche. Et ben moi, je vais essayer d'aller prendre une petite tisane pour me calmer, là, contre... Comment il s'appelle encore? Maxime? Oh, je pense que j'ai oublié son nom de famille. Et monsieur que, hein, ça, quand tu commences ta journée comme ça, là, avec un plouc qui te traite de plot, ça commence mal la journée, mais je la finis avec vous, alors ça se passe très bien. À demain. Cube Radio.